Bonjour tout le monde. Alors, selon le programme que nous avions établi au sein du Conseil, c'était prévu depuis assez longtemps que je devais prêcher aujourd'hui, ce 20 novembre. J'avais plusieurs thèmes qui mûrissaient gentiment sur mon cœur, puis je me suis dit, je préfère ça. C'était en train de se former en moi. Et voilà que dernièrement, Alain annonce qu'il y aura une présentation d'enfance dimanche-ci. Et que par conséquent, ce serait bien d'adapter le thème. Je me suis dit, ok, vas-y ma belle, une présentation d'enfant, tu peux le faire. Alors je me suis plongée dans les textes. Et je me suis retrouvée dans une belle panade. J'étais empêtrée avec trois problèmes. Même davantage, mais je vais vous dire les trois principaux. Jésus nous a dit de faire des disciples. Il nous a dit de baptiser, il nous a dit d'enseigner, il nous a dit de guérir les malades, de délivrer les gens qui étaient sous l'emprise des démons. Il nous a dit de continuer son œuvre, mais il ne nous a jamais dit de présenter des enfants. Ok ? Alain ! Dans l'Ancien Testament, deuxième problème, c'était les premiers-nés qui étaient consacrés à l'Éternel. Aujourd'hui, en l'occurrence, le premier-né, c'est Alexis. Et c'est Enora, sa petite sœur, que nous allons présenter. OK ? Troisième problème, on consacrait les premiers-nés mâles. Jusqu'à preuve du contraire, Enora est une fille. Voilà, merci Alain. Voilà. Du coup, je me suis confiée dans mon Seigneur. Je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour ne pas trahir ta parole? Et comment est-ce qu'on va faire pour parler de quelque chose si tu ne nous demandes pas de le faire? Est-ce qu'on va faire un acte religieux? Qu'est-ce qui va se passer? Aide-moi dans tout ça. Comment est-ce que je vais décortiquer l'affaire? Du coup, j'ai dû aller creuser les textes un peu plus profondément. Donc ce qu'il faut comprendre, puis ne pas oublier, mais ça, voilà, vous le savez, mais ça fait du bien des fois de se le rappeler, c'est que tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament a pour but de nous enseigner, de nous faire comprendre des choses actuelles. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, mais aujourd'hui, en 2016, nous ne vivons plus dans l'ombre, mais dans la réalité de Jésus. Ça, on le sait. Mais Jésus, lui, il est né sous la loi. Le Nouveau Testament est venu après son œuvre à la croix, mais lui, il est né sous la loi. Donc, il a dû vivre des événements, entre guillemets, religieux, qui répondaient, qui obéissaient à la loi. Mais cette loi, il l'a accomplie en lui-même. Et c'est pour ça que c'est différent pour nous. Donc, elle n'est pas effacée, elle est accomplie. Ça veut dire qu'on doit la comprendre dans une autre dimension. Ça, c'est juste pour poser la base. Donc, la présentation d'enfant la plus connue, je pense, c'est celle de Jésus. Donc, on va l'étudier un petit peu pour en comprendre le sens, la pertinence ou non, de pratiquer encore la présentation d'enfant. Je regarde Corinne et Jean-Noël. Tout va bien. D'ailleurs, quand Jésus a été présenté, il n'a pas été présenté à l'Église, parce que l'Église n'existait pas. Il y avait un temple, au début il y a eu un tabernacle, ensuite il y a eu le temple, il y avait des sacrificateurs qui faisaient le service, mais l'Église, comme on la vit aujourd'hui, elle n'existait pas. L'Église, c'est l'assemblée des gens qui ont reçu Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau. Donc, du temps de Jésus bébé, l'Église n'existait pas. Et en plus de ça, il fallait un intermédiaire, dont on n'a plus besoin maintenant. Il fallait un intermédiaire, on ne pouvait pas juste comme ça à la maison présenter son enfant. Il fallait aller devant le sacrificateur pour présenter l'enfant à l'Éternel. Donc Jésus n'a pas été présenté à l'Église, mais il a été présenté à Dieu. Donc ce matin, devant les hommes, devant les anges, nous allons présenter Enora au Seigneur. Nous serons tous témoins, mais c'est au Créateur des cieux le Créateur des cieux et de la terre, que nous allons présenter Enora. Ce n'est pas rien. On va la présenter au Dieu vivant. Vraiment, ce n'est pas rien. Et nous, on a un rôle à jouer là-dedans. Donc, allons voir un petit peu l'histoire de la présentation de Jésus. Je vous propose d'aller dans Luc 2, les versets 21 à 24. Luc 2, 21 à 24. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc là, au verset 21, on peut voir qu'il y a un premier élément qui est mentionné, c'est la circoncision de Jésus, au huitième jour après sa naissance. Et ça, ça correspondait à la prescription que le Seigneur avait donnée à Abraham 2000 ans avant Jésus. C'est le signe de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham et tous ses descendants. Donc un signe d'appartenance et d'alliance. Mais c'était tous les garçons qui étaient circoncis. Ce n'était pas seulement le premier-né. Mais il y a une suite dans le passage qui touche à un autre sujet différent de ce huitième jour et de la circoncision. Donc verset 22, Luc 2, 22. « Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » Donc en fait, quand Jésus a été circoncis, il avait 8 jours. Selon la loi, qu'on trouve aussi dans les Lévitiques, quand une femme avait accouché d'un garçon, pendant 7 jours, elle était considérée comme impure, mais elle devait encore attendre 1 mois, 30 jours, avant de se présenter dans le temple. Et là, il y a marqué que c'est après la purification qu'ils sont allés présenter Jésus dans le temple. Donc, à la circoncision de Jésus, il avait 8 jours. À sa présentation, il avait 1 mois environ. C'est 2 éléments différents. C'est 2 pratiques différentes. Donc, la présentation d'un enfant n'a rien à voir avec ce 8e jour qu'on croit souvent dans les milieux évangéliques. Ça n'a rien à voir avec la circoncision, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans le temple, on a vu, pour le présenter au Seigneur. Donc, ce mot « présenter » en grec, c'est « paristémie ». Il a beaucoup de significations, mais entre autres, c'est « montrer »,« amener vers », »,« offrir », mettre une personne ou quelque chose à sa disposition. Et dans l'Ancien Testament, il y en a plusieurs mots pour le verbe présenter quand le verbe est conjugué. Tu présenteras. Et la plupart du temps, quand c'est ces phrases, tu présenteras, il s'agit presque toujours d'offrande. Tu présenteras quelque chose pour le Seigneur, en offrande pour le Seigneur. Ou tu te présenteras devant le Seigneur. Donc, le fait de présenter a une grande signification de s'offrir, de se donner. Donc, Jésus a été montré à Dieu, il a été offert, il a été présenté comme une offrande pour chacun d'entre nous. Il a été mis à disposition du Seigneur parce qu'il l'a obéi, il lui a obéi en toutes choses, mais il a aussi été mis à notre disposition pour notre rachat, pour notre rédemption. Et donc on peut dire que la présentation de Jésus, elle était prophétique. Elle répondait à l'exigence d'une loi, mais elle annonçait tout ce qu'il allait accomplir en lui-même. Et Nora n'est pas Jésus. Elle ne peut pas accomplir la loi en elle-même. Donc qu'est-ce que ça signifie? On va présenter Nora au Seigneur. Eh bien, présenter maintenant un enfant au Seigneur, ça veut dire que déjà, on reconnaît qui est Dieu. On reconnaît qu'on a besoin de lui. Et les parents d'Enora, Jean-Noël et Corinne, ont envie que cet enfant appartienne au Seigneur. Donc c'est un acte de foi qu'ils font, c'est un désir, c'est des demandes qu'ils viennent présenter devant le Seigneur. Seigneur, mais bénis notre fille, dirige ses pas. Je te demande que dans sa vie, elle fasse les bons choix, favorise les circonstances autour d'elle. pour qu'elle apprenne à te connaître, qu'elle soit enseignée en toi, qu'un jour elle ouvre son cœur pour te recevoir, pour te servir, etc. etc. C'est ça qu'on va faire. On va la présenter devant le Seigneur, mais on va présenter tous les besoins qu'elle va rencontrer dans sa vie. Que tous ses besoins soient connus du Seigneur. Bien sûr, il connaît toutes choses, mais il nous demande qu'on verbalise, qu'on dise les choses, qu'on lui demande. C'est quand on va demander au Seigneur, on va chercher les choses dans le ciel, on les amène sur terre, c'est comme ça qu'elles s'accomplissent. Le Seigneur nous demande qu'on soit actifs. Donc c'est ce qu'on va faire pour Enora tout à l'heure. Mais pour nous-mêmes, qu'est-ce que ça signifie ? Nous-mêmes, on peut se présenter devant le Seigneur. Chaque jour. Chaque jour, je peux me présenter devant le Seigneur et lui rappeler, Seigneur, un jour je t'ai donné ma vie, mais je m'offre encore à toi. Aide-moi à faire ta volonté, aide-moi à te suivre. Seigneur, voilà, tu vois ce que je suis, tu connais mes manquements, tu connais mes besoins, mais tu connais aussi tous les dons que tu as mis en moi. Je me présente devant toi aujourd'hui, utilise-moi. Je me mets à ta disposition. Utilise-moi pour bénir, utilise-moi pour instruire, utilise-moi pour corriger, utilise-moi pour favoriser les circonstances de quelqu'un d'autre, etc. Voilà pour la présentation. On pourrait s'arrêter là et puis passer directement à l'action, faire venir les parents et hop, on prie, c'est fait. Mais la parole continue. Ce n'est pas tout à fait fini. Donc Jésus qui a été présenté dans le temple, si ça a été fait, c'est parce que ça répondait à une loi. Et cette loi, on la trouve dans Exode, au chapitre 13. Et pour commencer, dans le verset 2. Voilà. Consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des animaux que des hommes, il m'appartient. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu veut consacrer les premiers-nés ? Des hommes et des animaux, pourquoi est-ce qu'ils lui appartiennent ? D'abord, pourquoi les premiers-nés ? Ça, c'était un de mes problèmes. Mais en fait, Dieu, il se réfère à ce qui s'est passé en Égypte. Vous vous souvenez ? Que ça faisait environ 430 ans que le peuple d'Israël était en esclave en Égypte. Et Dieu a utilisé Moïse pour les sortir de cette condition de captivité et de souffrance. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Parce que Moïse a dû aller se présenter devant Pharaon. Il a dû lui commander, mais laisse sortir mon peuple. Mon peuple veut aller adorer le Seigneur dans le désert, laisse-le sortir. Et Pharaon ne voulait pas parce qu'il avait besoin de tous ses esclaves. Qu'il exploitait de toutes sortes de manières. Et ce qui fait qu'il a fallu envoyer 10 plaies. Et la dernière plaie a été celle qui était décisive, déterminante. Et c'était que durant une nuit, le jugement est passé sur toutes les maisons d'Égypte et a provoqué la mort de tous les premiers-nés, des hommes et des animaux. Mais en appliquant sur les portes des maisons le sang du sacrifice, le sacrifice d'un agneau, qui préfigurait Jésus. Le jugement est passé par-dessus les maisons des Hébreux, en épargnant, en protégeant tous les premiers-nés. Donc par le sang d'un agneau, Dieu a protégé les siens, Dieu a protégé son peuple. Mais les premiers-nés des Égyptiens n'avaient pas cette prescription, ils n'avaient pas appliqué ce sang sur leur maison, et tous leurs premiers-nés sont morts, y compris celui de Pharaon. Et c'est ça qui a fait fléchir son cœur. Il a été tellement affecté dans ses tripes qu'il a dit à Moïse, fichez le camp. J'ai retenu le mot. Mais c'était vraiment ça. Allez, oust, je ne veux plus vous voir du balai. Après, il s'est rétracté parce que voilà. Mais c'est vraiment cet événement qui a fait que ça a libéré le peuple. Au prix des premiers-nés. Et dans Nombre 3, au verset 13, Dieu rappelle cet événement et dit « Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. » Voilà, Voilà pourquoi Dieu demande de consacrer les premiers-nés. C'est parce qu'il les a sauvés. Le terme hébreu qui est utilisé là pour premier-né, ça veut dire celui qui fend le ventre maternel. Donc, c'est celui qui crée l'ouverture. Donc, c'est vraiment le premier qui sort. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. C'est pour ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Mais il y a quand même une petite parenthèse qui est très intéressante dans Exode 4, au verset 22-23, parce que c'est la première fois dans la Bible que Dieu parle de son peuple, Israël, en l'appelant « mon fils » et « mon premier-né ». Quand Dieu parle à Moïse, il lui dit « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Donc là, ce terme premier-né dans ce passage, c'est beaucoup plus large. C'est ce que le Seigneur s'est acquis, c'est son peuple, homme, femme, indépendamment de la place dans la fratrie. Les premiers-nés du Seigneur, c'est son peuple, c'est ceux qui lui appartiennent. Et en fait, ce thème du premier-né, on pourrait en faire plusieurs prédications. Il y a énormément de choses qui parlent du premier-né dans la parole, mais ce serait un petit peu long pour aujourd'hui. Mais moi, ça m'a déjà soulagée. Je me suis dit, pour Enora, c'est bon, parce qu'en faisant partie du peuple du Seigneur, en étant en Jésus, elle est une première-née. Et qu'elle soit une fille, mon troisième problème, il est réglé. Parce que c'est confirmé dans le Nouveau Testament, en Galates 3, 26. Pour toutes les personnes qui se sont données au Seigneur, qui sont nées de nouveau, qui vivent en Christ, voilà ce qui est écrit. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc en Jésus, peu importe qui on est, on peut être le 18e de la fratrie, ça n'a aucune importance. Donc c'est bon, on va pouvoir présenter Enora. Et puis on est... Là, moi, c'est bon, je me sens déjà beaucoup mieux. Voilà. Mais on va revenir quand même au temps de Moïse pour comprendre cette loi. Pour reprendre le passage d'avant, donc le Seigneur dit à Pharaon, au travers de Moïse, de laisser aller son fils pour qu'il me serve. Donc, les premiers-nés qui sont consacrés à l'Éternel, il y a un but, c'est qu'en signe de reconnaissance, on a été sauvés par le Seigneur. Donc notre reconnaissance, notre réponse, ça doit être, logiquement, c'est de servir le Seigneur de toutes sortes de manières. Mais le Seigneur a changé deux, trois choses dans la loi. Et ça, c'est une petite parenthèse, parce que plus tard, à la place des premiers-nés, il s'est acquis la tribu de Lévi. Vous saviez qu'il y avait, dans le peuple d'Israël, il y avait 12 tribus. Et il a choisi Lévi pour s'occuper des choses de Dieu, pour être des sacrificateurs. Et c'était à la place des premiers-nés. Et c'était toujours dans l'optique pour qu'ils me servent. Du coup, Marie et Joseph n'auraient pas eu besoin d'aller présenter Jésus au temple parce qu'ils étaient de la tribu de Judas, pas de Lévi. Donc, depuis que Dieu a décidé que ce seraient les Lévites qui remplaceraient les premiers-nés, il n'y avait plus besoin de faire cette présentation. Oups. C'est dur à suivre. Mais Marie et Joseph ont quand même choisi de le faire. Et moi, je pense que c'était poussé par le Saint-Esprit, parce que justement, dans cette loi, dans ce passage, il y avait quelque chose que nous devons comprendre, parce que c'était prophétique. Alors, qu'est-ce que le Seigneur demande ? Il demande de se consacrer. Il dit, consacre-moi tous les premiers-nés. Qu'est-ce que ça veut dire, consacrer? Consacrer, ça veut dire mettre à part comme sacré. Dédié, considéré comme saint. C'est vraiment mettre à part. Pour Jésus, ça voulait dire mets-le à part pour qu'il fasse mon service entièrement et rien d'autre. Donc il y a eu d'abord la présentation de Jésus, après il y a eu la consécration, mis totalement 100% à la disposition de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Quand on a reçu Jésus, quand on a été transformé, ça, qu'est-ce que ça signifie de se consacrer? Ben là, moi, je pense que c'est un de mes sujets favoris, puis je pourrais vous faire 18 prédications. Donc là encore, je suis obligée d'aller un peu vite. Mais se consacrer au Seigneur, c'est que toute ma vie soit en honneur à l'Éternel. Que ce soit mes choix, que ce soit mes paroles, que ce soit la gestion de mon corps, de ce que je regarde, de ce que je consomme, de ce que je goûte, de ce que j'essaye, de ce que je teste, de ce que je sens, de ce que je veux, de ce que je dis, de ce que je ne dis pas, etc. etc. C'est énorme, c'est un travail de tous les jours. Et tous les jours, il faut recommencer certaines choses, il faut s'entraîner. Mais c'est aussi porter du fruit. C'est prier, c'est délivrer les captifs, c'est aller prier pour quelqu'un qui en a besoin, c'est de demander la guérison pour quelqu'un qui en a besoin, c'est d'intercéder pour les gens qui en ont besoin, c'est louer le Seigneur, c'est le glorifier, c'est faire toutes les choses qui vont faire que son règne va avancer. Et ça, on l'a tous reçu en nous, on a tous la capacité de le faire. C'est une question de, une question de volonté. On a tous le choix. Donc en fait, le fait de se consacrer, c'est de marcher dans la vérité, en adoptant un style de vie qui va honorer Jésus et sa parole. Et vous savez ce que ça veut dire, Enora? Moi, je me suis dit, super, Enora, ça doit être un nom hébreu, j'aime l'hébreu, je suis en train d'apprendre l'hébreu, je vais trouver ça dans mon dictionnaire et puis je vais leur faire tout un truc. Eh bien, j'ai cherché toutes les orthographes possibles et je n'ai pas trouvé, parce que ce n'est pas un nom hébreu. Mais Enora, ça veut dire honorer. Donc là, j'étais quand même contente. On va prier que Enora ait un style de vie qui soit en honneur à l'Éternel. Et vous savez quoi? L'Éternel honore ceux qui l'honorent. C'est sa parole qui le dit. Donc on va prier que Enora soit honorée par le Seigneur. Une des façons que le Seigneur a pour nous honorer, c'est de nous faire participants de son œuvre. C'est en nous utilisant, nous, que son royaume céleste se répand sur la terre. C'est quelque chose de merveilleux. Dieu, il guérit, il transforme des vies, il restaure des vies, mais c'est à travers de nous, c'est à travers les êtres humains. Ce n'est pas comme ça par hasard. On a besoin les uns des autres, mais c'est un honneur pour nous d'être participants. Et le Seigneur nous donne ça. Il nous donne de vivre des miracles. C'est quelque chose de merveilleux. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va prier pour Enora. Mais il y a encore un troisième élément. Si on reprend le passage dans Luc 2. Donc, on a vu, et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et le dernier verset. Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc, on voit que Joseph et Marie ont dû amener des animaux pour le sacrifice qui est prescrit dans la loi et toujours dans cette même loi. Mais alors, qu'est-ce qu'elle dit? On a vu que la loi, c'était de consacrer tous les premiers-nés. Mais si on va un peu plus loin dans Exode 13, les versets 12 à 16. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifie cela ?» Tu lui répondras « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, L'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. Donc là, on voit que ces premiers-nés doivent être rachetés. Mais il y a juste un passage, je ne sais pas si vous avez vu, c'est très spécial. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. C'est vraiment bizarre. Mais en fait, le Seigneur a choisi des animaux considérés comme impurs pour nous instruire. Et l'âne était considéré comme impur. Ça voulait dire que la première fois qu'une ânesse mettait bas pour son premier ânon, cet ânon, normalement, selon la loi, fallait le prendre et l'offrir en sacrifice sur l'autel pour le consacrer à l'Éternel, en souvenir qu'il avait sauvé tous les premiers-nés. Mais comme l'âne est considéré comme impur, on ne peut pas, parce que ce ne serait pas un sacrifice agréé. Donc, il fallait le racheter par un agneau, parce que l'agneau, il est considéré comme pur. Donc, un agneau, à la place de l'ânon, pouvait être sacrifié. Et si on ne voulait pas sacrifier un agneau, peut-être parce qu'on n'en avait pas ou pas les moyens, ben, il fallait briser la nuque de cet ânon, parce qu'il fallait qu'il soit, d'une manière ou d'une autre, consacré au Seigneur. Et ça, c'était encore pour nous enseigner, nous. Sans Jésus, nous sommes tous impurs. Nous sommes nés dans le péché, dans le sens où on a hérité une nature de péché qui date d'il y a très longtemps de Adam. Donc on ne peut pas se sauver soi-même. On a besoin d'un agneau qui prend notre place. Et si on n'accepte pas cet agneau, qui est Jésus, vous le savez, c'est la mort éternelle. On nous brise la nuque, spirituellement parlant. C'est ça que ça voulait dire. Donc c'était pour nous enseigner. Donc Dieu dit, pour tous les animaux qui sont impurs, eh bien, ils seront rachetés par un agneau ou pas. Mais ce qu'il dit, un peu plus loin, tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Pour l'être humain, Dieu n'a jamais voulu de sacrifice. Dieu n'a jamais voulu de sacrifice d'être humain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on consacrait un animal à l'Éternel, ça voulait dire, en fait, égorge-le, dépose-le sur l'autel, mets le feu, et ça va faire une offrande de bonne odeur qui va monter à l'Éternel. C'est ça que ça voulait dire, consacre un animal. Et Dieu demande de consacrer tous les premiers-nés des humains, mais Dieu ne nous demande pas d'égorger un enfant, de le mettre sur l'autel et puis de mettre le feu, pas du tout. Mais il faut quand même le consacrer parce qu'il a été sauvé. Alors, on le rachète. On le rachète. Et Dieu, dans sa loi, a dit comment est-ce qu'on peut le racheter, par quels animaux. Et c'est pour ça que Joseph et Marie ont apporté des pigeons et des tourterelles pour racheter leur enfant. Parce que Dieu ne veut pas de sacrifice d'enfant, mais ce rachat est nécessaire pour nous tous. Ce rachat, c'est Jésus ou ces personnes. Heureusement, maintenant, on n'a plus besoin d'apporter des animaux pour nous racheter. Nous sommes sous la loi du Nouveau Testament, sous la grâce. Voilà. Et dans Romains 12, verset 1, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous voyez le mot qui est utilisé, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est paristémie. C'est exactement le même terme qui a été utilisé quand Jésus a été présenté dans le temple. C'est le même terme. Et maintenant, c'est à nous que c'est adressé, de nous offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ça ne veut pas juste dire, sois sainte, mets-toi une auréole, va te coller sur un tableau comme une icône, et puis voilà, je suis sainte. C'est pas ça que ça veut dire. Offrir mon corps, c'est dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. C'est la façon dont je vais prendre soin de mon corps. Mais aussi, mon corps va se déplacer, il va accomplir des choses. Et tout ça pour la gloire de Dieu, parce que j'ai été rachetée. Et j'aimerais tellement qu'il y en ait d'autres qui soient rachetés avec moi. J'aimerais tellement qu'il y en ait d'autres qui soient guéris. Mais je suis consciente que je suis rachetée. Donc voilà le pourquoi d'une présentation d'enfant. Présenter, consacrer, racheté. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on n'est plus sous une loi collective, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, mais on est sous une loi individuelle. Donc, seule Enora pourra faire ses choix. On ne peut pas les faire à sa place. Mais nous, comme ses parents le font aujourd'hui, nous avons la responsabilité de la présenter devant le Seigneur. Aujourd'hui, c'est avec nous tous, parce qu'on va unir nos forces, parce qu'en tant que rachetés, nous sommes tous des rachetés, nous sommes le peuple de rachetés, nous sommes le peuple de premier-né, on a une autorité spirituelle. Et c'est par ces droits légaux que le Seigneur nous a donnés qu'on va prendre position pour la vie d'Enora. On va unir nos forces, on va prier pour elle. Mais ensuite, la responsabilité des parents, qui a déjà commencé et qu'ils ont certainement déjà fait depuis avant sa naissance, c'est de continuer à prier pour elle, de prier tous les jours de sa vie, que tous les jours de sa vie soient couverts par la prière. C'est comme ça que le Seigneur peut intervenir. Et c'est notre responsabilité à tous. Vous tous qui avez des enfants, c'est votre responsabilité de les couvrir de prières durant toute leur vie. Mais nous avons aussi tous des enfants spirituels. Et il y a l'Église, et il y a nos collègues, et il y a plein de monde. Mais d'abord, c'est le conjoint et les enfants. Et ensuite, on étend. Et ça fait la différence. Ça fait la différence dans la vie d'une personne. Et ça va même faire la différence dans les générations à suivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de réel. Vous savez, moi, j'ai une grande sœur qui a été adoptée. J'ai toujours vécu avec elle parce qu'elle est plus âgée que moi. Elle a été adoptée quand elle avait 4 mois et moi, je suis arrivée un peu moins de 3 ans après. Donc, j'ai toujours grandi avec elle. Mais on n'a pas le même parcours de vie. Je ne vais pas vous parler des circonstances de sa venue au monde qui sont terrifiantes. Mais quand je vois sa vie et les batailles qu'elle vit maintenant, et quand je vois ma vie à moi, j'ai aucun mérite. Mais moi, j'ai des ancêtres qui connaissaient le Seigneur et qui ont servi le Seigneur. Il y en a plein qui se sont éloignés. Ça, je ne sais encore pas pourquoi, je n'ai pas tout compris. Mais je sais que j'ai un passé spirituel qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Et elle, ce passé-là, elle ne l'a pas. Et elle bataille dans sa vie. Et c'est vraiment une souffrance. Et là, dans l'Assemblée, bah, vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Il y en a qui ont un bon bagage chrétien. Même si à un moment donné, ils se sont éloignés, vous savez que vous avez un bon dépôt et que revenir au Seigneur, ça ne va pas être si compliqué que ça. C'est une question de choix, mais vous savez qu'il y a quand même un fondement que vous avez reçu. Et d'autres, vous bataillez parce que vous vous dites, waouh, je dois découvrir tout ça. J'avais rien compris. Je sors de la mouise et puis maintenant, il y a tellement de choses à comprendre, à apprendre, à vivre. Et puis, il y a tellement de choses qui ont été déformées aussi dans la mentalité. Et le fait de prier pour vos enfants, prier pour vos enfants, prier pour vos petits-enfants, ça aura un impact éternel, de génération en génération. Donc, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est vraiment important. Par contre, vous avez compris que consacrer Enora, on ne va pas pouvoir le faire. On peut la présenter, mais on ne peut pas la consacrer. Ça, ce sera son choix. On va pouvoir prier pour qu'un jour, elle décide de se consacrer au Seigneur. Et puis, la racheter, ben ça, on va encore avoir plus de peine. Ça, on ne va pas pouvoir le faire non plus. Mais on va prier qu'un jour, elle accepte qu'elle a été rachetée par Jésus. Donc, toutes ces choses-là, ça doit stimuler notre prière pour tout à l'heure. Mais ça doit aussi nous stimuler pour notre propre vie. Faire le point, Seigneur, j'en suis où? Est-ce que je suis digne d'une première née? Où est-ce que j'en suis avec toi? Et s'il y a des personnes qui ne se sont jamais présentées devant le Seigneur, s'il y a des personnes qui n'ont jamais reçu Jésus, qui n'avaient jamais compris son sacrifice et qui aimeraient le faire, moi je vous invite à le faire. Je ne vais pas faire un appel maintenant, on va déjà faire la présentation d'Enora et ensuite moi je donne le relais à Alain. Mais si quelqu'un veut faire cet acte-là, de se présenter devant Jésus et de l'accepter dans sa vie, allez voir les pasteurs, allez voir Alain, allez voir Nicolas s'il revient après l'école du dimanche. Mais ne sortez pas de cette salle sans l'avoir fait. Si vous recevez dans votre cœur que vous devez donner votre vie à Jésus, ne sortez pas de cette salle sans l'avoir fait. Voilà, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous enseigne. Merci pour les fondements que tu nous as donnés. C'est vrai que de lire l'Ancien Testament, que de lire la loi comme ça, Ça paraît vieillot, ça paraît bizarre, mais quand on commence à comprendre les choses avec profondeur, on t'y retrouve toujours, Jésus. Et tu es toujours actuel, et tu as toujours des choses à nous dire pour aujourd'hui et maintenant. Et moi, je te demande que ta parole puisse être implantée dans nos cœurs, qu'elle soit enracinée dans nos cœurs, qu'elle se répande. Je te demande par l'action de ton Saint-Esprit de nous donner les révélations dont nous avons besoin, chacun personnellement, là où nous en sommes. Et je te demande aussi de nous convaincre. Convainc-nous de sainteté. Montre-nous quelle est notre identité de premier-né, de racheté. Que ça change notre vie, que ça stimule notre vie, que ça nous encourage. Montre-nous aussi comment appliquer ce que tu nous demandes de faire. Comment mettre notre appel à exécution. Comment bénir autour de nous. Comment faire avancer ton royaume. Et je te demande aussi, Saint-Esprit, de nous inspirer dans nos prières, d'une manière générale, mais surtout tout à l'heure pour Enora. Inspire-nous, qu'elle soit couverte de prières, que ses parents soient couverts de prières, que toute sa famille soit couverte de prières, et qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après aujourd'hui. Que tous puissent sentir ta présence, goûter combien tu es bon, combien tu es doux, combien tu es puissant, combien tu es merveilleux. Un Dieu de grâce qui pardonne, qui guérit et qui sauve. Je bénis ton nom, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, Fils Jésus-Christ et Saint-Esprit. Toi seul, tu es Dieu. Amen.